Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Par les temps qui courent, tous les soirs, écoute les artistes pendant une heure. Et ce soir, nous avons la joie de recevoir la photographe Jane Evelyn Atwood.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler papi.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Romain de Bec de Lièvre avec Jane Evelyn Atwood.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Dans le miroir, l'homme était agenouillé, son corps nu et blanc brillant dans la faible lumière de la pièce. La lumière disponible. Le client gesticulait, Blondine le tenait fermement par les plis du caoutchouc, le visage complètement recouvert, il ne voyait rien, il ne me voyait pas surtout. J'ai fait une photo. En 1976, rue des Lombards à Paris, vous rencontrez Blondine, Jane Evelyn Atwood, qui vous fait rentrer, vous et votre appareil photo, dans un appartement, dans un escalier, puis dans les chambres où travaillent les prostituées. Cette rencontre sera le point de départ de votre travail photographique. Bonsoir, Jane Evelyn Atwood.
Bonsoir.
Une exposition « Histoire de prostitution 1976-1979 » rassemble les séries de photos que vous avez prises dans la rue des Lombards, puis à Pigalle avec les transsexuels. C'est jusqu'au 14 avril à la maison de la photographie Robert Doisneau de Gentilly. On peut citer aussi le livre « Rue des Lombards » qui est publié aux éditions Xavier Barral, « Pigalle People » aux éditions Le Bec en l'air et un livre d'entretien avec Christine Delory Montberger publié aux éditions André Frères. Je vous propose qu'on écoute une archive sur la rue des Lombards en 2009.
Alors ici, je te présente la rue où je travaille. Alors là, c'est la rue des Lombards. Je regarde s'il y a mon pote. Ah ben non, il n'est pas là. Parce que la prostitution, c'est un mode de vie aussi. Tu connais tout le monde, tu connais le patron d'en face, qui vend des vêtements, tu connais les barmans, tu connais les vendeurs, on se tutoie. C'est comme un petit village, un peu, quelque part. Il y a beaucoup d'homosexuels aussi dans le quartier. Donc on se connaît et les putes, ça les dérange pas. Hein. Alors là, on est au début de la rue Saint-Denis.
Tout le monde connaît la rue Saint-Denis, non?
Il y en a qui connaissent pas. Ils arrivent, ils disent, on est où, là? Qui nous regardent comme s'ils étaient aux zoo. Oh, des pieds à la tête. Et encore, maintenant, on n'est plus déguisés en pute. Hein. Oh, je te dis pas. Hein. C'est interdit, maintenant. On avait des poitrines à l'air, comment ça s'appelle? Des barésies, enfin des hauts talons, un peu plus de maquillage, hein, que maintenant, t'as vu, on est nature. Hein. Ça se voit, t'as des filles qui marchent dans la rue qui sont plus sexy que nous. C'est vrai ou pas?
Jane Evelyn Atwood, on écoute une première archive, un documentaire des Pieds sur Terre de 2009, où c'est le témoignage de Momo, qui est une prostituée. Je racontais en introduction cette rencontre en 1976, dans la rue des Lombards, avec Blondine, qui ouvre votre travail photographique. Est-ce que, pour vous, cette rencontre-là, ça correspond à la naissance de la photographie?
De la photographie pour moi, oui, bien sûr, en quelque sorte. Parce que c'était le premier grand sujet. Quand je dis grand, je veux dire le temps passé et que c'est devenu un livre, d'ailleurs deux livres, parce que c'était publié au début, une petite édition allemande. Et après, des années après, par Xavier Barral, c'était le premier grand travail que j'ai fait. Donc c'était très important.
Dans l'archive qu'on vient d'entendre, Momo, la prostituée, raconte un mode de vie. Est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce que vous le qualifieriez comme ça aussi? Est-ce que vous avez rencontré aussi, avant tout, un mode de vie avec Blondine et avec les prostituées de la rue des Lombards?
C'était un mode de vie, mais c'était un mode de vie du travail. Moi, j'ai photographié la nuit parce que Blondine travaillait ce qu'on appelait à l'époque l'équipe de nuit. Elle commençait à 20h à peu près jusqu'à l'aube. Et donc, je restais avec elle ces horaires-là. Mais ces prostituées vivaient ailleurs. Elles venaient dans cet hôtel de passe qui était à l'époque le 19 rue des Lombards. aussi une grande différence, c'est qu'il n'y avait pas encore la drogue. Pas de tout. Je pense qu'en 2009, il y avait déjà la drogue là-bas. Je peux pas parler de ça parce que je suis plus branchée sur la prostitution et j'étais plus branchée en 2009. Mais moi, j'ai photographié le vieux milieu de la prostitution. Le milieu au Halles, si vous voulez. Les Halles étaient fermées, mais tout juste. Et ils étaient en train de construire le centre Pompidou. Toute l'année que j'ai fait des photos rue des Lombards, il y avait le grand chantier de Beaubourg. Et c'est ça qui a fait chasser les prostituées au 19. Finalement, à la fin de l'année, l'immeuble était vendu aux enchères. D'ailleurs, il s'était vendu deux fois parce qu'il y avait toutes sortes de micmacs malhonnêtes avec cet immeuble. Et finalement, c'était bien et belle vendu. Et les prostituées étaient obligées de partir.
Ce qui fait que ce livre de photos maintenant, rue des Lombards, apparaît comme le témoignage d'un monde qui a disparu.
Oui, certainement. Oui, oui.
C'est comme ça que vous le percevez?
Je le perçois comme ça et par autre chose, pour autre chose aussi. Hein. C'était quelque chose de très particulier, ma relation avec Blondine. C'était une vraie relation privilégiée. On utilise toujours ce terme, relation privilégiée, mais là, pour le coup, c'était un vrai et authentique relation privilégiée. Pourquoi? Parce que moi, j'étais une cavette, comme Blondine m'a dit au début, une cavette qui est une personne qui n'est pas dans le milieu, dite milieu de la prostitution, bien sûr, et elle, c'était une pute. Une pute de bas niveau, bas classe. C'était pas des call girls du 16e arrondissement. C'était des prostituées de la rue. Et que on forme une amitié, une réelle amitié, basée sur le respect l'une pour l'autre, avec Blondine et moi. C'était remarquable et complètement inattendu. Et je pense, de toute façon, pour moi, c'était arrivé une fois dans ma vie de photographe. Il faut comprendre aussi que Blondine m'a protégée d'elle-même. C'est elle qui m'a dit « Non, je viens pas chez toi, parce que toi tu es une cavette et moi je suis une pute. Tu peux venir chez moi, mais je viens pas chez toi. »
Vous pouviez aller dans son monde, mais elle pas dans le vôtre.
Yeah, c'est aussi dans son monde où elle habitait. Je connaissais sa mère, je connaissais l'homme avec qui elle habitait, qui n'était pas du tout un proxénète, avec qui elle s'est mariée beaucoup plus tard. Parce que je restais en amie vraiment privilégiée jusqu'à la fin de sa vie. Et ça aussi, c'était quelque chose de remarquable parce que quand j'ai arrêté de faire des photos, après un an, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va penser quand je viens pas tous les soirs, quand j'arrête de venir, toujours en gardant le contact, bien sûr, j'espérais. Eh bien, elle s'est évolué sans aucun problème. C'était une femme remarquable de tout point de vue. Elle m'a jamais dit « tu as gagné de l'argent sur mon dos » ou elle m'a jamais traité comme ça. D'ailleurs, elle était très très fière de moi. Plus tard, quand je suis devenue un peu connue et j'ai commencé de passer à la radio ou à la télé, elle m'entendait, ma voix, elle me téléphonait tout de suite. Elle m'a dit « je reconnais ta voix tout de suite, ma jeune, j'ai écouté toute l'émission, et elle était fière de moi comme si j'étais son enfant, en quelque sorte. Elle a pu jamais avoir des enfants. Donc peut-être, elle était très maternelle avec moi aussi. Donc peut-être j'ai remplacé des enfants qu'elle a pas eu, en quelque sorte. Mais c'était ça, je veux dire, par une relation privilégiée.
Une des particularités de Blondine aussi, c'est qu'elle n'avait pas de proxénète.
Voilà.
Et donc, elle avait une forme de liberté.
Oui, et c'est d'autant plus remarquable comme femme qu'elle n'a pas eu une proxénète. Elle a eu quelques-uns, mais ils l'ont vite larguée parce qu'elle était absolument outrageuse et incontrôlable et au même temps adorable et une beauté inimaginable. C'était une gagneuse. Et tous les autres prostituées étaient jalouses d'elle. Au même temps, elle l'admirait parce qu'elle était tellement spéciale et tellement magnifique. Voilà. Et les proxénètes aussi. J'ai eu un contact avec un proxénète de Blondine qui on l'appelait Cassius Clay. C'était un noir absolument magnifique qui avait 8 femmes sur le tapin. Et il m'a expliqué, Blondine, c'est ma sœur, c'est ma mère, c'est tout ça, mais je peux pas travailler avec elle. Mais il le voyait toujours en amitié, pas en proxénétisme.
Dans ce quotidien que vous aviez à l'époque, c'est-à-dire de vous rendre dans cet hôtel rue des Lombards et de prendre des photos tous les jours, est-ce que vous avez le souvenir que vous avez eu le sentiment que votre travail photographique démarrait vraiment, ou est-ce que vous étiez juste là pour prendre des photos?
Pendant que j'étais en train de le faire, j'ai pas pensé comme ça. Et d'ailleurs, je pense pas comme ça. J'ai voulu jamais être photographe. Je rêvais pas de ça. Je ne savais même pas qu'on pouvait être photographe, je pense. J'avais fait quelques photos avant, à la fin de 75, où j'ai eu aussi une grande rencontre à Paris quand j'ai photographié James Baldwin. Et ça, c'était un truc qui revient maintenant, parce que James Baldwin est revenu sur la scène. Il était en train d'être oublié, que je trouve absolument terrible, parce que c'était un écrivain incroyable, absolument incroyable. Et j'ai eu la possibilité de le photographier quand, juste après que j'ai acheté mon appareil. Il habitait à Saint-Paul-de-Vence, il venait à Paris quand il allait aux États-Unis, et il restait toujours dans un grand hôtel dans le 6e arrondissement. Et un jour, mon meilleur ami, qui était élève aux Beaux-Arts, m'a téléphoné et m'a dit « Jane, tu vas pas croire qui je suis en train de sculpter ». Et j'ai dit « Qui ?» Il m'a dit « James Baldwin ». Et il m'a dit « Tu peux venir avec ton appareil et le prendre en photo ». Et pour moi, c'était comme si on m'a dit « Tu peux photographier le Dieu ». Parce que pour moi, tout le monde aux États-Unis a étudié Baldwin à l'université et même au lycée. Hein. Et donc, je suis allé et mon copain Larry Wallhandler était en train de faire le buste, la tête de Baldwin. Et donc, j'ai fait toute une série de photos de ça. Et ces photos restaient totalement inconnues jusqu'à il y a deux ans à peu près, quand le film de Baldwin est sorti. Et maintenant, les photos commencent à être vraiment connues. Et il y a deux photos qui sont exposées à New York, dans une galerie. Il vient de vendre une. C'est tout un truc avec les photos de James Baldwin que j'ai fait avant la rue des Lombards, en fait.
Dans l'exposition qu'on peut voir à Gentilly, les photos de la rue des Lombards sont mises en regard de tout le travail qui est venu après, qui s'appelle Pigalle, et qui est autour des prostituées, cette fois transsexuelles, du quartier de Pigalle à Paris. Vous avez pu dire dans des entretiens que la différence entre le travail de la rue des Lombards et le travail à Pigalle, c'était que justement vous n'aviez pas autant de proximité à Pigalle que la proximité que vous avez pu avoir avec notamment Grâce à Blondine dans la rue des Lombards.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par proximité vraiment ?
De rapport intime avec les gens que vous photographiez?
C'est pas exactement ça. Si j'ai dit ça, je me suis pas bien expliqué, parce que j'ai eu une réelle proximité. Mais ce que je voulais dire par ce que j'ai dit, c'est, c'était pas si fort pour moi. Et je pense que c'était lié, pardon, pas au fait que ce sont des transgenres. En fait, il faut pas dire transsexuel. Vous allez prendre plein la gueule d'avoir dit ce mot.
Il faut dire transgenre.
Moi, j'ai dit transsexuel parce que j'aime mieux le mot transsexuel que transgenre. Mais bon, déjà, Hélène Azira m'a critiqué, elle a raison. Donc, mais j'ai dit trans, c'est plus simple. Comme ça, on ne fait pas l'erreur. But anyway, c'est très compliqué de sentir au fin fond de toi qu'au fait vous êtes femme, mais que vous avez ce corps d'homme. Pour nous, c'est inimaginable. Et donc, il y avait cette complication-là, et aussi, il y avait la complication de la drogue, chose qui n'existait pas rue des Lombards. Et elles étaient tellement droguées que elles étaient à la masse. Et des relations qui pouvaient se tisser rue des Lombards, ça se passait pas de la même manière à Pigalle. C'était très furtif, c'était très pas du tout superficiel, mais ça durait pas longtemps, parce qu'après ils se droguaient, elles étaient plus conscientes. Il fallait renouveler tout le temps. Bon, c'est pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit.
Donc la distance était un peu plus... Enfin, c'était plus compliqué. Il y avait plus de distance, en tout cas.
Il y a plus... Pas avec plus les de choses que vous distance, en photo. Non, pas plus de distance. Plus de relations vraiment soudées qui s'est formées. Parce que, Dieu sait, j'étais dans les chambres, j'ai photographié la nue, j'ai photographié quand elle se chutait. Hein, on peut pas être plus intime que ça. Mais c'était difficile d'établir les relations dans la durée, je dirais comme ça. J'ai quand même... garder en tête deux ou trois avec qui j'étais très amie, mais quand j'ai fini le travail, parce qu'elles étaient tellement droguées et moi j'étais devenue photographe professionnelle et j'étais sur d'autres sujets, Je les ai pas revus pendant très longtemps. Et après, quand j'ai sorti mon livre sur Haïti, je me trouvais à Toulouse, à FR3, à la télévision, à parler de ce livre. Et quand j'ai descendu du plateau, on m'a dit, il y a quelqu'un qui a téléphoné, qui t'a connu dans les années 70. Voilà le numéro de téléphone. Et j'ai téléphoné et c'était Nouja, celle que j'appelle Nouja dans le livre, une de mes préférées avec qui j'avais été très proche et que j'avais perdu de vue. À ce moment-là, je me suis remis en contact avec Nouja. Et elle m'a dit que, d'abord, quand je l'ai pas vue tout de suite parce que elle était à Lourdes. Moi, j'étais à Toulouse, qui n'est pas trop loin, mais je l'ai vue un an après, quand je suis retourné à Toulouse pour enseigner à l'école ETPA de photographie. Et on a fixé un rendez-vous, Nouja et moi. Elle est venue et je me souviens, j'ai dit, mais est-ce que je vais te reconnaître? Parce que je crois qu'elle avait 68 ans quand je l'ai vue. Et j'ai dit, est-ce que tu es en femme ou homme? Elle a dit, un peu des deux. J'ai dit, OK. Et quand je l'ai vue, je l'ai reconnue tout de suite. Mais la chose qui était remarquable, c'est qu'elle était en bonne santé. C'était la première fois que je l'ai vue en bonne santé. Parce que moi, j'ai des photos d'elle dans le livre où elle se shoot. Elle était maigre à cause de la drogue. Et je parle de héroïne, hein? La drogue dure. Elle était, tous ses dents étaient pourries, elle était pas habillée bien, c'était vraiment le toxicomane pur et dur, hein. Et là, quand je l'ai vue, elle était, les joues étaient joufflées, on dit,
Joufflues.
Joufflues, elle était vraiment en bonne santé. Et donc, elle m'a raconté que quand le sida arrivait à Pigalle, personne comprenait qu'est-ce que c'était au début. Mais que les gens étaient en train de mourir comme des mouches. Et elle a dit, il faut que je quitte Pigalle. Et à ce moment-là, elle s'est remise en contact avec sa famille, une famille qui, avec qui elle avait été complètement divorcée depuis 30 années. Parce qu'au début, elles n'avaient pas du tout accepté son homosexualité. Quand ses parents soupçonnaient qu'elle était gay, ils l'ont ramenée au prêtre. Qui dansait autour d'elle avec de l'incense et qui disait des prières pour essayer de faire sortir le mauvais esprit. Et finalement, rien n'a marché et donc ils l'ont ramené à un psychiatre qui lui a donné les traitements de choc. Elle avait 12 ans. À ce moment-là, elle est partie. Elle est venue à Paris. Elle a rencontré les trans. Elle commençait à faire le tapin pour gagner sa vie. Et le reste, c'est l'histoire. Et donc, elle a retéléphoné à sa famille. Sa mère a dit, vous pouvez venir, mais il faut rester dans l'appartement au-dessus parce qu'on ne veut pas d'histoire. Et elle a trouvé, par pure chance, un psychiatre dans une ville à côté qui spécialisait dans la toxicomanie et les transgenres. Et cette personne l'a sauvé sa vie. Et quand je l'ai rencontrée, elle était complètement clean, elle se chutait plus. Faut le faire, hein, après des années d'héroïne. Et elle était en bonne santé. Et donc, elle me poussait à ce moment-là de publier le travail. Elle dit, pourquoi vous l'avez pas publié, Pigalle? T'sais, les photos sont fortes et tout ça. Elle m'a ramené à Pigalle où il y avait Miranda qui avait été à Danemark pendant des années. C'est ça qui l'a sauvée du sida. Elle est revenue. Elle tapinait de son appartement sur l'internet. On est allé la voir. Je lui ai montré tous les petits cahiers que j'avais avec toutes les photos. Elle m'a raconté qui était mort et pourquoi. Bagarre, suicide, disparition, sida, sida, sida. C'était comme ça. Presque tout que j'avais connu était décédé ou disparu. Un an après ça, Miranda est mort par un cancer foudroyant. Ça a laissé seulement Nouja. Et juste avant que le livre allait être imprimé, je lui ai téléphoné pour annoncer la bonne nouvelle que le livre allait être enfin publié. Et j'ai fait ma réservation de train, mon hôtel, pour aller le voir, pour le lire le texte que j'avais écrit qui le concernait. Et 3 jours après, elle est décédée. Cancer de poumon. Donc, elle savait même pas que j'avais dédicacé le livre à elle, parce que j'ai voulu que ça soit une surprise. Et je regrette toute ma vie que j'avais pas dit au téléphone que le livre était dédicacé à elle.
Est-ce que, à l'époque, vous avez le souvenir que ça a été difficile d'arrêter les sujets?
Tu es sûrement la deuxième personne qui me pose cette question. Et je pense que c'est une réelle question. Je te remercie de l'avoir posée. C'est toujours difficile pour moi d'arrêter. Pour 2 raisons. C'est difficile parce que tu as la peur de ne pas avoir un sujet. Hein. Une fois que je suis devenue vraiment photographe, c'est un peu comme la peintre devant la toile qui est blanche. Qu'est-ce qu'il faut faire, you know? Mais assez vite, j'ai appris qu'il y a toujours des sujets qui venaient vers moi. Voilà. Et l'autre raison, c'est parce que je suis triste de quitter mes sujets. Je les aime. Je peux pas imaginer aujourd'hui de ne plus être dans les prisons, par exemple. D'ailleurs, je pense jamais comme ça, parce que ça me briserait le cœur. Certains sujets que j'ai faits où je sais que, par exemple, Haïti ou Angola, qui était très, très dur physiquement, je sais qu'à l'âge de 71 ans, je peux pas faire ce genre de reportage maintenant. Physiquement, c'est trop dur. J'ai pas la tête pour gérer 11 000 $ que j'avais sûrement en liquide pour payer mon fixeur, pour payer la voiture quand j'étais à Haïti. Mais je pense pas comme ça, parce que si je pense comme ça, je vais être trop triste. Je suis triste de quitter les sujets, oui. Je travaille toujours un tout petit peu trop longtemps, parce que je pense que je vais jamais peut-être revenir ici. Il faut être sûr que j'ai assez de photos.
Oui, c'est pour cela que je suis devenue un photographe, parce que j'étais tellement timide en tant qu'adolescente. J'ai commencé quand j'avais 15 ans, j'étais vraiment timide.
Et c'était
ma façon de séduire les gens, de me rapprocher d'eux, de développer mes amitiés.
I think that part of the reason the work is
Je pense que
so
la raison pour laquelle
real and so
ces travaux sont tellement véritables et tellement intimes, c'est que les gens qui sont sur les photos doivent vraiment être proches de moi, ou je dois me rapprocher d'eux pour pouvoir les photographier de cette façon.
My first show was when I was 19.
Ma première expo, c'est quand j'avais 19 ans. C'était des photos noir et blanc du travesti avec lequel je vivais. Et c'était eux le public de cette expo. Et ma première expo était en 73, mais les gens ont vraiment commencé à entendre parler de moi en 1993. J'ai eu beaucoup de mal avec le monde extérieur, parce que mon public, c'était les gens sur les photos.
There's always been accusations, particularly by male photographers.
Toujours accusé, surtout les photographes hommes. On m'a accusé de voyeurisme, de mise en scène.
The line between, I say that between voyeurism and narcissism.
Je pense qu'entre le voyeurisme et le narcissisme, il y a l'empathie.
Jane Evelyn Atwood, on entend une archive, la voix de Nan Goldin en 2003, qui parle de la proximité qu'elle peut avoir dans son travail photographique avec les sujets qu'elle photographie. Et elle parle de cette notion d'empathie. Est-ce que c'est une notion qui vous parle?
La notion d'empathie, absolument. Moi aussi, je travaille avec une notion d'empathie.
Pas une notion, avec l'empathie.
Avec beaucoup d'empathie. Je pense que je ne pouvais pas rester un an et même 10 ans si je n'avais pas cette empathie pour mes sujets. Mais il y a une grande différence entre moi et Nan Goldin. Nan Goldin a photographié elle-même et ses amis. C'est comme si moi j'avais photographié mes frères et ma sœur et mes parents. Mes frères et ma sœur et mes parents n'étaient pas si intéressants que les amis de Nan Goldin. Visuellement, j'entends. Donc le rapport est totalement différent. Elle était là-dedans, elle n'avait pas besoin de les convaincre d'être photographiée. Elle les a photographiées comme elle se droguait avec elle, comme elle passait du temps avec elle. Moi, j'étais toujours quelqu'un de l'extérieur qui s'introduit avec beaucoup de mal dans un sujet clos qui n'est pas mon monde. Je suis visiteuse et je reste jusqu'au bout visiteuse. Donc, le rapport que j'établis avec ces gens-là est tout à fait particulière. Je ne peux pas les trahir. Ils me laissent entrer, et en gratitude de ça, je ne peux pas faire des photos qui sont voyeuristiques. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec mes photos. Je dois suivre les photos que je fais de ces gens-là pour le reste de ma vie, pour être sûr comment ils sont utilisés, quelles légendes sont en dessous de l'image, etc., etc. C'est un travail qui dure beaucoup plus longtemps que la prise de vue. Ça s'arrête pas avec la prise de vue.
Dans le livre Rue des Lombards aux éditions Xavier Barral, il y a une lettre qui est reproduite et qui est la lettre tapée à la machine à écrire que vous écrivez à Blondine. Et vous lui écrivez, vous lui faites la promesse que si vous faites un livre de photos, ce sera plus un livre d'amour qu'un livre de putain.
Oui, je dis, cette lettre est un peu embarrassante, mais je pense que c'est intéressant pour le livre parce que ça montre comment j'étais naïf et que je connaissais rien de tout. Mais j'ai essayé de dire ce qui était sur mon cœur et que j'ai voulu dire à Blondine comment j'allais faire les photos. Je parlais vraiment très mal français. J'ai demandé à un ami à moi qui était américain et qui ne parlait pas très bien non plus de m'aider avec l'écriture de ce lettre. Donc, c'est pas en très bon français.
Je sais pas si c'est forcément naïf de se dire, que, d'écrire à Blondine en tout cas, qu'on va faire plus un livre d'amour qu'un livre de putain.
C'est, moi, je trouve ça plutôt... Est-ce que j'ai dit putain dans le livre?
Oui.
Wow, c'était osé. Ben anyway, peut-être... C'est...
Je trouve qu'au vu de ce sujet-là, je trouve ça gonflé de dire ça.
Je sais
pas. De lui
pas.
Écrire ça.
Oui. Mais c'est ce que je ressentis. Ça semble un peu cucu de parler d'un livre d'amour. Bon, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, donc on peut parler d'un livre d'amour. Mais je pense que tous mes livres, ce sont des livres d'amour. Sinon, j'aurais pas pu les faire.
Comment vous les voyez, ces photos, maintenant?
De la rue des Lombards?
De la rue des Lombards et de Pigalle, quand elles sont exposées à Gentilly.
You know, je les regarde très rarement. Et la rue des Lombards, je l'ai relu quand j'ai accroché à Gentilly. Je pense que je n'avais pas regardé depuis que Xavier a refait le livre. Et là, on a bien regardé. Mais je regarde ces photos, je dis, comment j'ai fait ces photos-là? Parce que je m'étonne moi-même d'avoir eu le culot d'entrer dans les chambres avec... avec le client, par exemple, mon concentration aussi. Mais je me souviens comment j'étais tellement excitée par ce que je vivais. J'étais exactement où j'ai voulu être, sans savoir que tout ce qui venait après allait venir. J'avais aucune idée que j'allais être photographe professionnel, que j'allais faire des prisons, etc., etc. C'était, je me souviens, la première fois quand j'étais toujours dans la rue et j'avais pas le courage de demander est-ce que je peux venir dans l'escalier avec vous. J'étais beaucoup trop timide et j'ai pensé qu'elle voulait pas que je sois à l'intérieur. Et finalement, Blondine m'a demandé, mais pourquoi tu viens pas avec moi me garder compagnie dans l'escalier quand j'attends les clients? Et quand je suis allée dans cette couloir et que j'étais assise sur l'escalier avec les autres prostituées, j'étais exactement où j'ai voulu être. Et je me suis dit, c'est incroyable. Je suis là.
Ce qui frappe dans ces deux séries de photographies, formellement, c'est qu'aussi la rue des Lombards, c'est souvent des photos qui sont en intérieur, de nuit, alors que dans la série Pigalle, il y a davantage de photos qui sont en extérieur, de jour, où c'est beaucoup moins flou. Est-ce que c'est aussi une distinction formelle, en tout cas, qui vous frappe maintenant?
Oui, mais ça s'explique pour ne pas dévoiler tous ces trucs très profonds sur mon propre travail. La rue des Lombards était, j'avais pas de choix. Blondine travaillait la nuit, donc je travaillais la nuit. Et c'était génial parce que ça m'a fait apprendre à travailler sans lumière, travailler avec une ampoule nue, qui des fois était trop violente et je pouvais pas faire des photos quand les filles changeaient l'ampoule, ou trop faible et je pouvais pas faire des photos non plus. Enfin, et tout ça, et l'escalier, quand je sortais de la rue des Lombards après un an, je faisais que des photos verticales. Et il fallait que j'apprenne à faire des horizontales parce que le couloir était... vertical, l'escalier était vertical. Bon, Pigalle, elles étaient dans la rue, elles étaient dans la journée. You know, très vite, elles étaient à la masse. Et moi, j'ai pas travaillé à Pigalle la nuit. J'ai travaillé dans la journée quand elles étaient dans la rue. Voilà.
Vous parlez dans le texte que je lisais en introduction, qui est un texte de vous, de la lumière disponible. C'était vraiment ça. C'était un travail fait avec la lumière qu'on a.
Oui, oui, oui. Et ça m'a appris la lumière et l'absence de lumière. Et c'était très important. C'est, la rue des Lombards, c'était mon école de photographie, en fait. Ça m'a appris tout, la patience, de ne pas être trop gourmande non plus, de savoir quand quitter une situation pour ne pas avoir un problème, de ne pas me trouver seule sur l'escalier sans la protection des prostituées autour de moi. Je raconte ça dans le livre. Tout ça a été très important. Et j'utilise toutes ces choses dans tous les sujets que je fais depuis. Voilà.
Vous pensez que c'est mieux qu'une école de photographie traditionnelle?
Ah oui. Il faut dire que, à l'époque, tous mes collègues, nous, on n'était pas à l'école pour photo. Hein? Les photographes de mon âge, on faisait pas l'école. Maintenant, tout le monde vont à l'école. C'est très curieux. Mais ce genre de photographie, qui est plutôt le reportage, on apprend sur le tas, on apprend dans la rue, on apprend peut-être avec des conseils de quelqu'un qui connaisse mieux que nous, comme moi j'ai eu le grand bonheur de rencontrer Leonard Fried tout au début. Et il m'a encouragé, il m'a donné quelques astuces, mais le travail elle-même, j'ai appris tout ça dans la rue. Les temps qui courent, France Culture, Romain de Bec-Delièvre avec Jane Evelyn Atwood.
Le feu des foules estivales descend le boulevard de Clichy. Dans l'une des petites rues qui serpentent vers les abbesses, une Américaine s'arrête et lève les yeux. Elle aime la vue et décide de prendre une photo. Son voyage à travers l'Europe a bronzé son visage et délavé ses jeans. Elle porte une queue de cheval, des chaussures Hearst et un pentax autour du cou. Ce n'est pas pour autant une photographe. Juste une touriste. Ses amis sont partis sans elle. Là, elle se tient carrément au milieu de la ruelle pour faire sa mise au point. Elle prend son temps. Elle ne remarque pas les prostituées qui font le pied de grue devant la porte cochère à sa gauche. Elle ne les entend pas non plus quand elle commence à lui crier dessus. Et elle ne suspecte certainement pas que ce sont des hommes déguisés en femmes. Elle est totalement absorbée par la réussite de son cliché. L'une des transes s'avance en agitant les bras. Hé! Derrière la touriste, les voitures passent à toute allure sur le boulevard et des grappes de piétons se bousculent bruyamment sur les trottoirs. Elle n'entend rien. Elle règle son appareil, déambule de ci de là pour ajuster cadre et focus. Hé, la salope! Beugle la transe armée d'un sac à main. Des gens observent la scène. Les clochards du terre-plein au centre du boulevard se décalent sur leurs bancs pour mieux voir. La touriste reste indifférente. Elle s'incline, se contorsionne, porte à nouveau le viseur du pentax à son œil. La transe se charge, tire en arrière le bras de l'Américaine et balance son sac à main. « Salope !» hurle-t-elle encore une fois. « Pas de photo !» Et son sac s'abat avec un bruit sourd. Une expression d'effarement total fige le visage de la touriste, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, cherchant l'air par spasme, mais n'émettant aucun son. Elle vient d'être frappée dans le dos par un sac à main, celui d'une femme d'âge moyen, pour avoir pris une photo d'une petite rue de Paris. Elle est stupéfaite. Puis sa stupeur se transforme en colère. What? What? Elle bégaye. Son visage s'empourpre sous le bronzage. What the hell? Mais qu'est-ce qui te prend? Crie-t-elle.
Jane Evin Atwood, on vient d'entendre une lecture par Jeanne Aléos. C'est un texte qui figure à la fin du livre Pigalle, publié aux éditions de Bec en l'air.
Pigalle People.
Pigalle People. Mm-hmm. Où c'est vous qui avez écrit ce texte. Et vous racontez cette scène-là d'une touriste américaine qui est à Pigalle, qui ne remarque pas qu'il y a des trans et qui veut prendre juste en photo la rue. Et les trans la remarquent et s'ensuit une dispute. Pourquoi avoir rapporté cette scène-là?
Parce que je pense que, d'abord, j'ai vu la scène et j'avais pris beaucoup de notes, comme je fais toujours avec mes sujets. Et quand j'ai trouvé le cahier dans lequel j'avais écrit cette histoire, je l'ai réécrit pour le mettre dans le livre parce que j'ai pensé, ça montre vraiment la difficulté de s'introduire avec ce milieu de prostitution trans à ce moment-là. Et aussi, ça montre le total non-respect et même presque la stupidité de cette touriste. C'est-à-dire, elle remarquait rien. Elle était tellement dans son monde de faire sa petite photo qu'elle voyait pas ce qui était autour d'elle et qui était beaucoup plus intéressant que la rue elle-même, d'ailleurs. Tous ces transgenres qui étaient dans les portes et tout ça, elle les voyait même pas. Et j'ai trouvé que c'était un peu tragique, mais c'était aussi très drôle.
Et c'est une scène comique un peu aussi.
Yeah, et moi j'avais tout à fait, je prenais tout à fait le côté des transgenres.
Ce qu'il y a, c'est que d'un côté, c'est une personne, on se rend compte que on peut passer à côté de quelqu'un sans le voir avec un appareil photo, et que de l'autre côté, du point de vue des trans, c'est pas évident de se faire photographier, ou enfin de se trimballer à côté d'elle avec un appareil photo.
Oui, mais il faut pas, quand vous voyez des gens comme ça, il faut pas faire n'importe quoi sans demander de la permission. Non. C'est quand même très particulier.
Quelle place elle occupe l'écriture? Parce que, à la fin du livre sur la rue des Lombards aussi, il y a tout un long texte que vous avez écrit, vous, en regard de la photographie.
L'écriture prend une place très importante pour moi, mais ça dépend de l'histoire. Parce que, bon, évidemment, avec Trop de peine, les femmes en prison, j'ai écrit beaucoup. Parce que j'étais dans les prisons où la plupart des gens n'entrent pas en prison. You know, sauf s'ils sont détenus. Et beaucoup de détenus ne sont pas capables d'écrire ce qu'elles ont vécu. Moi, j'étais en train d'apprendre des choses que personne n'était au courant. Donc, il fallait que j'écrive toutes ces choses pour donner aux autres. Hein, pour dire ce que j'avais vécu. Et c'était la même chose avec les histoires comme Rue des Lombards et Pigalle People. C'était tellement personnel. Des petites anecdotes qui arrivent, tout ce qui fabrique ces deux textes en question, qui fait ces deux textes. Ça montre qu'est-ce que c'était Pigalle à ce moment-là et Rue des Lombards aussi. Mais Haïti, par exemple, qui était un travail purement street photography. Je connaissais à peine la plupart des gens dans les photos. Je les parlais pas. J'avais pas établi des relations avec elles. C'était en couleur. C'était un travail que je faisais. Quand je poussais les boutons, c'était plutôt à cause de la couleur et pas à cause d'autre chose. Donc, c'était un vrai travail couleur. Et pour ça, j'avais rien à dire en texte. Et c'est pour ça que j'ai cherché quelqu'un pour écrire un texte. Et aussi, j'ai pensé que ça serait très important d'avoir la voix d'un Haïtien. Parce que même Haïti est dans un grand désarroi depuis très longtemps. Mais ils ont une culture très, très forte avec la musique, avec la peinture, avec l'écriture. Et donc, j'ai commencé à lire les bouquins haïtiens et j'adorais l'écriture de Lionel Twio. Et j'ai demandé, est-ce que vous voulez écrire une préface pour mon livre? Et il l'a fait.
Il y a un mot qui revient souvent dans votre travail, c'est le mot « histoire ». À savoir que les séries photographiques s'articulent à l'idée qu'on ait une histoire. Est-ce que pour vous, c'est aussi une manière de construire un récit avec les photos?
Oui, mais qu'est-ce que c'est la différence entre récit et histoire pour vous, quand vous dites comme ça? Je pense que j'utilise les images pour raconter une histoire en image ou un récit en image.
Qui peut relever d'une forme de narration. Dans l'idée de récit, je vois plus quelque chose qui serait de l'ordre de la narration.
Oui, mais narration, c'est un peu didactique. J'aime pas ce terme. Je voudrais pas que mes photos soient comme des illustrations. Les photos doivent être si fortes qu'elle peut exister sans le texte, et le texte doit être si fort que le texte peut exister sans les photos. Et c'est ça le défi. Et quand vous les mettez les deux ensemble, vous avez quelque chose qui est vraiment complet.
C'est comme deux faces, ouais. C'est l'idée que le texte peut tenir tout seul et que les photos peuvent tenir tout
exactly,
seul.
Exactly, exactly. Et j'ai même pensé peut-être un jour, je mettrai que mes textes dans un livre, tous les textes que j'ai écrits, parce que j'ai écrit pas mal de textes qui n'étaient jamais utilisés, et ça ferait un livre sans photos.
Est-ce que pour vous, la photographie, c'est quelque chose qui ressemble à du langage?
Oui, tout à fait. C'est un langage d'image, c'est exactement ça. Et c'est universel, hein, langage d'image. Tout le monde comprend le langage d'image, d'une manière ou une autre. C'est à la portée de tout le monde qui peut voir.
Est-ce qu'il faut faire attention avec ce langage, du coup?
Très attention. Comme j'ai déjà dit, il ne faut pas trahir les gens qui sont dans ces images. Il ne faut pas trahir, infinitif.
Comment on sait qu'on ne trahit pas?
Il faut être honnête. Il faut être honnête jusqu'au bout. Moi, je me demande toujours, est-ce que je ferai ce que je demande cette personne de faire pour moi? You know, je me mets à leur place et ça me guide un peu. Qu'est-ce que je peux aller jusqu'où avec la photographie?
Quand j'étais jeune photographe, je ne me voyais que photographe noir et blanc. Mais je pense que j'étais relié à une tradition d'une photographie humaniste. Et puis très vite, enfin pas très vite, mais c'est encore une fois, c'est Tchernobyl. C'est étonnant, mais je pense que Tchernobyl, c'est vraiment un marqueur hein, pour moi dans mon parcours photographique. C'est Tchernobyl qui m'a fait réaliser que photographier en noir et blanc, ça crée une distance par rapport à l'objet photographié, donc le spectateur et l'objet photographié. Et je me suis dit, il faut que je photographie en couleur. Pour la première chose, c'est que on doit se rapprocher de l'objet. La deuxième chose, c'est que moi, je me suis rendu compte que je n'avais pas la mémoire des couleurs. Donc, en fait, j'ai besoin de photographier en couleur pour garder cette mémoire. Et la dernière chose, c'est que je pense que chaque époque a sa propre couleur. Et donc, c'est important de témoigner de notre époque et donc de témoigner des couleurs de notre époque.
Jane Evin Atwood, on entend la voix d'un autre photographe, Guillaume Herbeau, qu'on a reçu dans cette émission en 2018, l'année dernière, qui parle de cette question du noir et blanc et que pour lui, le noir et blanc introduit une forme de distance. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Par rapport à la couleur?
Un tout petit peu d'accord, dans le sens qu'on voit tous en couleur, sauf si on ne voit pas en couleur, mais la majorité des gens en voient en couleur. Mais je pense que mes photos noires et blancs, dans les prisons, il n'y a pas de distance. Hein. Je suis trop près pour cette distance. Donc, c'est pour le photographe à casser cette distance, si il ou elle voudrait casser cette distance quand on travaille en noir et blanc. Et c'est pas parce qu'on travaille en couleur que il y a pas de distance non plus. You know, c'est toujours une question de, comme vous avez dit tout à l'heure, proximité, de physiquement d'être près, d'être dans, comme on m'a dit de moi dans mon travail, dans les mâchoires de la bête. Là, il n'y a pas de distance. Et ça peut être en couleur comme ça peut être en noir et blanc.
Le travail sur la rue des Lombards et Pigalle People, c'est donc du noir et blanc, intégralement. Est-ce que ça a été fait en noir et blanc à cause des moyens techniques de l'époque, de la technique que vous aviez, ou est-ce que vous aviez choisi?
C'est une bonne question. Je pense que, honnêtement, c'est parce que je ne connaissais absolument rien de la couleur. J'avais pas un rond. Je suivais un cours de développement et tirage noir et blanc parce qu'il fallait développer mes propres films parce que j'avais pas l'argent pour payer un laboratoire professionnel et donc j'ai travaillé en noir et blanc. Mais ça m'a appris le choix plus tard de l'un ou l'autre. Et je dirais que, au fait, c'est le sujet qui va demander d'être fait soit en couleur, soit en noir et blanc. Quand je suis allée à Haïti, je suis allée avec les deux. C'est incroyable, mais j'étais toujours en film, je suis toujours en film d'ailleurs, et je suis allée avec des films noir et blanc et des films couleur, parce que je ne savais pas, ayant jamais été dans cette région du monde, qu'est-ce qui allait m'interpeller, la couleur ou le noir et blanc. Et presque tout de suite, c'était la couleur qui s'est imposée à Haïti.
C'est toujours le sujet qui s'impose à vous.
C'est le sujet qui me choisit, oui, tout à fait. Tout à fait, et c'est quelque chose que je vois dans la vie réelle, une anecdote visuelle, par exemple, ou je vois dans un magazine ou dans un journal, et après, assez vite, je décide, oui, je veux faire ça. Et là, j'organise ma vie autour pour que je peux le faire.
C'est toujours le sujet qui est plus grand que vous.
Ah oui, les sujets sont toujours plus grands que moi.
J'ai commencé par faire des photographies très simples, très documentaires, où je photographiais les familles, tous les membres de la famille, disposés les uns à côté des autres, en noir et blanc, au 6-6. Et il y avait vraiment un peu l'idée de revisiter cette forme-là, qui pouvait aller donc d'une forme, disons, anthropologique, jusqu'à aussi une forme quasiment policière de fichage, puisque dans les premières photos, on retrouve des portraits noir et blanc, de face, de profil. Donc cette question de la nature du regard porté, ça a toujours été quelque chose de très important, surtout quand on se confronte à une communauté rom, tzigane, qui a toujours été confrontée à des dispositifs photographiques différents et qui a souvent été l'objet d'une espèce d'archétype de la représentation. C'est-à-dire qu'on a créé sur eux, à partir des images que l'on produisait, des archétypes très différents. Ça peut être l'archétype de la bohémienne en train de faire les lignes de la main, ou du guitariste gitan en train de faire de la musique au coin du feu, tout comme ça peut être aussi l'archétype de la misère sociale ou du délinquant. Ce sont des images qui ont vraiment fabriqué ces archétypes, donc moi il me semblait intéressant, pour moi qui ne suis pas membre de cette communauté, en même temps que je les photographiais, de me poser vraiment cette question de finalement qu'est-ce que je peux montrer moi de cette communauté, comment le montrer, et surtout comment faire réfléchir le spectateur à ce qu'il est en train de voir.
Jane Evelyn Atwood, on entend la voix de Mathieu Pernault, le photographe, une archive de 2014, où il parle de son travail, où il a notamment pris en photo et suivi toute une famille rome sur un temps assez long. Et il parle de cette question des archétypes et de la construction des archétypes, comme si son travail photographique était une manière à lui de défaire les images toutes faites ou les caricatures qu'on pouvait avoir sur la famille rome. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu à l'esprit ou qui est apparu en cours avec votre travail sur les prostituées? L'idée de défaire les archétypes qu'on pouvait en avoir.
Ben, à l'époque, je pensais jamais à ça. Je pensais pas à tous ces trucs. Et d'ailleurs, je pense toujours pas à ces trucs-là. J'essaie de faire les meilleures photos que possible de quelqu'un qui est devant moi. De traduire en image ce que moi je ressens en face de ces gens ou cette personne. Après, dans l'editing, si je trouve qu'une photo est trop cliché, je vais l'éliminer. L'editing est très important.
Donc, quand même, vous avez cette conscience de l'idée qu'il faut pas produire un cliché.
Oui, mais pas au moment de la prise de vue. Je suis pas en train de penser comme ça.
Mais c'est au moment de l'editing.
Yeah, pour moi,
c'est très important pour
vous. Plutôt au moment de l'editing. Et évidemment, c'est beaucoup plus loin après la rue des Lombards et Pigalle, parce que quand j'étais dans ces sujets-là, j'étais pas encore photographe vraiment dans ma tête et je pensais pas comme ça. Je pense dans tous les sujets que j'ai faits, il peut avoir des clichés, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut pas être satisfaite avec le cliché. Il faut être plus profonde que ça. Et c'est pour ça il faut beaucoup de temps. Et c'est pour ça, pour moi en tout cas, il faut vraiment que je connaisse ces gens. C'est ça qui me donne quelque chose qui est en plus. Et après, les clichés s'éliminent naturellement dans l'editing.
C'est dans le fait qu'il y ait des séries aussi, et qu'il y ait plusieurs images.
Oui,
c'est comme ça aussi qu'on peut sortir du cliché.
Oui, parce que je pense que... Enfin, il y avait deux écoles à l'époque, Cartier-Bresson, qui pensait qu'il y avait une photo qui dit tout. Et il faut que la photo soit absolument parfaite, composée, etc. Et W. Eugene Smith, qui travaillait le photographic essay. C'est lui qui a inventé ça, plus ou moins. Et moi, je suis beaucoup plus pour le deuxième dans le travail que je fais. Parce que je pense qu'une photo peut être très... menteur, au fait. Ça peut être compris à toutes sortes de niveaux. Chacun va prendre de cette image ce qu'il en pense, ce qu'il en sent. Tandis qu'une série d'images, et même ça peut être une série très petite, 5 photos, 5 à 8 photos, doit être plus honnête sur le sujet en question.
Est-ce que pour vous, la photo peut donner une information au spectateur?
Et bien sûr.
Elle est là pour ça?
Elle est là pour ça et pour beaucoup d'autres choses. Toutes les images donnent une information à un niveau ou un autre. Hein.
À la fin du texte, ça me revient maintenant, de Pigalle People, vous parlez de la question du mystère. Que le fait d'avoir pris tous ces trans en photo, il y avait quelque chose de l'ordre du mystère qui apparaissait sur la photo, et d'un mystère pour vous, et aussi d'un mystère pour eux-mêmes. Est-ce que dans toute photo, il y a un mystère?
Ça, c'est une grande question. Est-ce qu'il y a... Peut-être si la photo est très bonne, oui. Il y a toujours un élément de mystère. Enfin, je pense que les photos les plus intéressantes sont les photos où, des fois, où vous comprenez pas exactement ce qui se passe dans la photo. Ça vous fait, en tant que spectateur, spectatrice, poser des questions sur cette image. L'image va au-delà de la page sur laquelle il est imprimé. Et ça nous intrigue et ça nous interpelle. Au même temps, bon, les photos, bon, je pense à Diane Arbus qui a fait des portraits frontaux. Il y a rien qui n'est pas compris et tout est pas compris dans ces photos au même temps. Il y a pas de flou, il y a pas de mystère comme ça. Le mystère est dans les gens qu'elle a photographiés. Elle a vu des choses bizarres et troublantes dans quelqu'un qui, le reste de nous, voit comme une personne tout à fait normale dans le Central Park à New York. Elle a vu quelque chose de différent et elle a souligné ça. Et c'est ça le mystère dans ces photos-là. Donc il y a mystère et mystère.
Et c'est un mystère dont on se rend pas forcément compte au moment où on prend la photo.
Non, pour moi non, en tout cas. Mais moi j'ai dit ça à la fin de ce texte parce que c'est troublant toujours pour moi. Moi, je prétends pas de comprendre pourquoi quelqu'un qui est né homme décide au fin fond de lui-même qu'au fait il est femme. Je trouve ça plutôt remarquable et magnifique. Ça m'intéresse. Je suis curieuse de ça parce que je trouve ça extraordinaire. La plupart des gens sont horrifiés à ça. Et ils traitent les transgenres avec beaucoup de mépris et peur et même haine. C'est un peu mieux maintenant, mais c'est pas beaucoup mieux que c'était quand j'ai fait des photos. Moi, j'adore les différences et je trouve que c'est ça qui rend la vie beaucoup plus intéressant.
Est-ce que vous avez des projets de photos, là, maintenant?
Oui.
Vous travaillez sur quoi?
Shame on you.
Faut pas poser cette question.
Non, je dis jamais sur quoi je travaille quand je suis en train de le faire. Mais ça va être un livre. Je suis presque fini avec la prise de vue. Je travaille depuis presque 4 ans maintenant. Je peux vous dire que c'est un sujet diamétriquement opposé de tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Je suis toujours en argentique. C'est plutôt noir et blanc, mais il y a quelques photos en couleur pour le moment. Je ne sais pas s'ils vont rester. Et ça va être un livre.
Dans le livre d'entretien qui est publié aux éditions André Frères, vous dites que vos sujets, ils ont toujours une petite place dans votre tête, mais qu'il faut...
Il faut le protéger.
Vous avez toujours un sujet dans votre tête, voilà, qu'il faut protéger.
Oui.
C'est toujours comme ça que ça fonctionne.
Les gens, j'ai expliqué à plusieurs reprises, mais merci de m'avoir donné la possibilité d'encore expliquer pourquoi j'aime pas parler de mes sujets avant qu'ils soient terminés ou presque terminés. Parce que bien sûr, quand j'ai travaillé 10 ans sur les prisons, à la fin, tout le monde savait que je faisais ça. Mais c'est un écrivain qui m'a dit, vous savez, you can talk away a story. Vous pouvez parler et ça fait évaporer l'histoire si vous parlez de l'histoire au lieu d'écrire l'histoire. Et c'est exactement le même sentiment que j'ai avec mes sujets. Quand je décide à faire des photos et quand je suis dans un sujet, c'est quelque chose d'extrêmement intime, extrêmement personnel entre moi et la personne que je suis en train de photographier ou les personnes que je suis en train de photographier. Ça se passe comme ça. J'obsède sur ça. Je pense à ça tout le temps. Je suis toujours en train de penser à mon sujet et je ne veux pas commencer à blablabla aux autres et répondre aux questions des uns et des autres sur ce sujet. Je ne veux pas que ça soit dispersé. Ma concentration sur le sujet et ce qui se passe entre moi et le sujet. Je le garde obsessionnellement entre moi et le sujet jusqu'à ce que c'est prêt à être vu par les autres. Parce que la dernière étape pour la créativité d'un art visuel, c'est que la chose soit vue. Et ça, pour moi, ça serait une expo ou un livre ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, vous allez savoir tous sur quoi je travaille depuis 4 ans.
Merci beaucoup, Jane Evelyn Atwood.
Merci à vous.
Votre exposition Histoire de prostitution 1976-1979, c'est jusqu'au 14 avril à la Maison de la photographie Robert Doisneau à Gentilly. On peut citer aussi le livre Rue des Lombards, publié aux éditions Xavier Barral, Pigalle People aux éditions Le Bec en l'air, et le livre d'entretien avec Christine Delory-Montberger, publié aux éditions André Frère. Je signale aussi qu'une adaptation de votre livre Too Much Time est visible, une adaptation théâtrale, les 14 et 15 mars au Théâtre du Hublot à Colombes, mise en scène par Fatima Saoulia Manet. If you know people who know me, you might want them to speak. Tell you about the girl or the woman they know more than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in circles, see you talking in circles, see thoughts running in circles. Les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Ce soir au son, c'était Valérie Lavalard. Sonia Leglen était à la réalisation. Merci à Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Lou Quevauvillet et Assa Traoré qui pensent et préparent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Think I'm like the other one.